On est heureux de se retrouver autour de la parole. Et comme l'a dit Jonathan, ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes ont à dire, mais c'est ce que Dieu a à nous dire. Et c'est pour cela qu'on est là cet après-midi, c'est parce qu'on veut ouvrir et méditer la parole de Dieu. Parce que la parole d'un homme, elle est limitée, mais la parole de Dieu, quand elle agit, quand elle est dans les cœurs, elle peut tout changer. Et j'aimerais qu'on lise un premier texte qui se situe dans le livre des Proverbes, au chapitre 18. C'est un texte qu'on va essayer de comprendre ensemble cet après-midi. Donc le livre des Proverbes au chapitre 18 et au verset 10. Et ensuite on ira dans l'évangile de Matthieu. Donc livre des Proverbes, chapitre 18 et au verset 10. Il est écrit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Je le relis. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Donc dans ce texte, il nous est parlé d'un refuge, d'une tour forte dans laquelle on peut être en sécurité. Alors on va comprendre ce texte et on va aller lire de suite dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1er. Donc l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, au verset 1er. Et on voit le début du ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était un prophète qui avait été envoyé par Dieu pour préparer la venue de Jésus-Christ. Et son but, le but de son ministère, de son service, c'était de préparer les cœurs à la venue de Jésus-Christ, de Dieu lui-même qui venait parmi les hommes. Et on lit ceci, donc Matthieu chapitre 3, verset 1er. « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » On s'arrête là. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur cette question que Jean-Baptiste va poser aux pharisiens et aux sadducéens, c'est-à-dire les religieux de l'époque. Il va leur dire, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» On voit que derrière cette question, en réalité, ce que Jean-Baptiste voulait dire à ces hommes-là, aux pharisiens et aux sadducéens, c'était, « Qui vous a appris à ne pas régler le problème de la colère à venir ?» Donc on voit dans ce texte qu'il nous est parlé de la colère à venir. Et c'est vrai qu'on est là cet après-midi pour entendre une bonne nouvelle qui va arriver. Mais avant qu'il y ait la bonne nouvelle, il faut comprendre qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, ou du moins la nouvelle, elle n'est pas mauvaise, mais la réalité, c'est qu'il y a une colère qui vient. Jean-Baptiste va dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Et on voit que les pharisiens, dans le contexte de ce texte, ils ne voulaient pas gérer, ils ne voulaient pas se repentir. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas se détourner de leur péché. C'est pour cela que Jean-Baptiste va leur poser cette question. Mais on voit au travers de cette question qu'il y a une colère qui vient. Et dans toute la Bible, il y a une chose qui est réelle, qui est annoncée, c'est que Dieu est un Dieu qui est juste et qui est un Dieu qui va un jour, à un temps donné, manifester sa colère. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit et ça regorge de textes qui nous montrent que Dieu est en colère à cause du péché. Pourquoi il est en colère ? Parce que c'est un Dieu qui est juste. Et que lorsqu'il va exercer sa colère, en réalité, ça sera un jugement qui va venir sur la terre à cause du péché. Alors, par exemple, on peut aller dans le livre des Colossiens. Alors, si vous ne voulez pas chercher, ne vous inquiétez pas, je vais les lire, ces textes. Mais dans Colossiens, au chapitre 3 et au verset 5, il nous est dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. » sur les fils des hommes. À cause de ces choses, la débauche, ça c'est quand les gens couchent avec des personnes qui ne sont pas leur mari, leur conjoint. L'impureté, c'est tout ce qui est pareil lié à l'impureté sexuelle, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, les idolâtries, etc. On voit dans le livre des Romains, au chapitre 1er, il nous est dit au verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc on voit qu'il y a une colère qui se révèle contre le péché. Et ça, c'est une réalité. S'il y a une colère qui vient. Si on va un petit peu plus loin, au chapitre 2 de Romains, au verset 1er, voici ce qui est écrit. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Et ça, ça s'adressait aux pharisiens. C'est à peu près la même chose, le même reproche que Jean-Baptiste faisait aux pharisiens. Il jugeait, mais il faisait exactement la même chose que ceux qu'il jugeait. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, là c'est vraiment ce que l'apôtre Paul il pouvait dire aux pharisiens. Les pharisiens, ils ne voulaient pas se repentir et ils méprisaient que Dieu était patient et qu'il était patient, qu'il était longanime, ça veut dire qu'il endurait, qu'il supportait les péchés des hommes parce qu'il avait un but, c'est que les hommes se repentent. Donc verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Et on s'arrête là. Alors vous allez me dire, oulala, c'est pas très joyeux comme début de prédication. C'est vrai, mais c'est la réalité. Il y a la colère de Dieu qui vient sur les hommes. Si on va dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, il nous est dit qu'il y a des exemples où il y a des moments, le jugement de Dieu à cause du péché est déjà arrivé et s'est déjà produit, mais à échelle réduite. Par exemple, il nous est dit, donc dans 2 Pierre au chapitre 2 et au verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Ça veut dire que les anges ont déjà été jugés, certains. « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. S'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Donc on voit au verset 6 qu'il nous est dit que ce qui est arrivé à ces moments-là, du temps de Noé, du temps de Lot, ça a été des exemples pour les impies à venir. Il y a une réalité, et les gens n'en ont pas conscience, mais c'est une réalité, la colère de Dieu vient à cause du péché. Il nous est dit, par exemple, pour Noé, du temps de Noé, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Du temps de Lot, on sait que les villes dans laquelle Lot habitait, c'était Sodome et Gomorre. Rien que le nom de la ville montrait le péché qu'il y avait à ce moment-là sur le monde. Et vous savez, à cause de l'impiété, à cause des injustices, à cause du mal qui est fait, la colère de Dieu vient. Elle vient. Et la question, c'est pas est-ce qu'elle va venir ou non. Non, la question, c'est quand elle viendra. Sauf que la Bible nous dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure où la colère de Dieu viendra sur la terre. Alors ça, c'était une vérité qu'il faut savoir. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Noé, même s'il y a eu le jugement qui est venu sur la terre, a trouvé un refuge dans une arche. La bonne nouvelle, c'est que Lot, même s'il y a eu la condamnation de Dieu qui est venue sur Sodome et Gomorre, a trouvé un refuge dans une petite ville qui s'appelait Tsoar. Il y a une bonne nouvelle. Oui, il y a la colère de Dieu qui vient, et on en a des exemples, mais dans ces exemples-là, malgré le fait qu'il y a la colère de Dieu qui est venue, des hommes qui sont qualifiés de justes ont pu trouver un refuge quelque part. Un refuge. Et on commence à mieux comprendre ce verset. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Alors on peut se poser cette question. C'est quoi un refuge? Un refuge, c'est un lieu où on est à l'abri d'un danger. Vous voyez, par exemple, dans certains pays, quand là où il y a des tremblements de terre, au Japon, par exemple, ou ailleurs, ils ont construit des abris antisismiques, c'est des refuges. Et dès qu'ils savent que le tremblement de terre va arriver, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont tous se mettre à l'abri dedans, et ils sont en sécurité. Ils ne craignent pas le tremblement de terre. Là où il y a des inondations, c'est pareil. Il y a des refuges, il y a des endroits où les gens vont pour être en sécurité. Si, par exemple, je vous disais, demain, il va y avoir une énorme inondation sur Toulouse, tout va être sous l'eau. Que vont faire les gens? Ils vont aller sur les hauteurs. C'est normal. Ils vont se mettre en sécurité. Donc, on voit que Noé et que Lot ont trouvé un refuge malgré le fait que la colère de Dieu venait. Et la question qu'on peut se poser, pour nous alors, on a vu qu'il y a la colère de Dieu qui vient, mais où est le refuge? Où est l'endroit? Où est la place où nous pouvons nous réfugier malgré cette colère de Dieu qui vient? Où c'est? À quel endroit? Alors, à quel endroit? Oui. Mais pour être sauvé, ce qui nous a été donné, ce n'est pas un endroit ici-bas sur cette terre. Ce qui nous a été donné, c'est un nom. C'est une personne qui nous a été donnée. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Il nous est parlé du nom de l'Éternel. Le nom de quelqu'un, au final, dans la Bible, ça représente sa personne. C'est qui il est. Et la Bible nous dit, dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Et à ce moment-là, il est parlé de Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. On pourrait dire aucun autre refuge, aucun autre endroit qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Oui, il y a une colère de Dieu qui vient. Mais oui aussi, il y a un refuge. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 16, il nous est dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, et on pourrait dire dans le contexte de ce texte, ne périsse pas dans la colère, mais qu'il soit sauvé de la colère. » D'ailleurs, juste si on va plus loin dans ce texte, il nous est dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc on voit, quand on dit que Jésus nous sauve, oui, il nous sauve de quoi? Il nous sauve du jugement de Dieu. Il nous sauve de la colère de Dieu qui va se manifester. Et on voit donc que, oui, Dieu est juste, et parce qu'il est juste, un jour, tout péché sera jugé. Et ça, c'est une réalité. Tout le mal qu'on fait, les gens disent « Oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a autant de mal qui se fait ?» Oui, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un jour, ils seront tous jugés. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et chacun sera jugé pour ses péchés. Ça, c'est une réalité, parce que Dieu est juste. Et ça, c'est un fait. Il ne passera pas sur le péché. Mais par contre, il y a une autre réalité aussi, c'est que Dieu nous aime, et qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné un refuge, qu'il a donné un moyen pour échapper à ce jugement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans Romains, au chapitre 5 et au verset 8, il nous est dit que Dieu prouve son amour. Ce n'est pas juste qu'il en parle, il le prouve. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le salut, c'est quoi? C'est le fait de ne pas être jugé par Dieu. Mais comment c'est possible? Si Dieu est juste et que nous, on a péché, comment est-ce que c'est possible qu'on ne soit pas condamné? Pourquoi d'ailleurs Jésus est ce refuge? Jésus est ce refuge parce que c'est lui qui a été condamné par Dieu. C'est lui qui a reçu la colère de Dieu pour que nous puissions être à l'abri, que nous puissions être épargnés. Dans Ésaïe 53, il nous est dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser. Il y a vraiment l'image de cette colère. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus, c'est notre refuge, parce que c'est lui qui a été frappé par la colère de Dieu, à cause des fautes que moi j'avais commises, pour que moi, je ne puisse plus être condamné par lui. Jésus, il est la victime qui a été consumée sur l'autel. Vous savez, le feu, dans la Bible, c'est toujours mauvais signe. Le feu, ça représente la colère, ça représente le jugement. Vous savez, les Hébreux, à l'époque, pour se faire pardonner, ils venaient avec une bête, un animal, et finalement, c'était l'animal qui était sacrifié. Et après être sacrifié, il était consumé. Ça veut dire qu'au final, c'était l'animal qui était brûlé, qui passait sous la colère, pour que nous n'y passions pas. Et bien, c'est cette image. Jésus-Christ à la croix, c'est l'image de l'autel. Jésus-Christ sur cette croix a pris toute la colère de Dieu qui me revenait. Il l'a encaissée pour que moi, je ne puisse pas vivre cette colère. C'est ça le salut. D'ailleurs, quand on parle Jésus sauve, il nous sauve de quoi? De nos péchés, mais surtout des conséquences de nos péchés avant tout, c'est-à-dire de la mort éternelle. Et tout comme au final une muraille, un refuge encaisse la tempête, et ceux qui sont à l'intérieur sont en sécurité, Jésus-Christ, il est celui qui a pris sur lui la colère de Dieu pour que nous puissions être en sécurité. Ça vous est déjà arrivé d'être à la maison et de regarder une tempête par la fenêtre? Elle est là, la tempête, hein? Il pleut, il vente, on voit les gouttes qui s'écrasent contre les vitres, mais nous, on est à l'abri, hein? On ne sent même pas la plus petite brise. Vous comprenez? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Jésus-Christ, c'est celui qui a encaissé toute la colère de Dieu. Et lorsque l'on croit en lui, lorsqu'on le prend pour refuge, alors on est en paix, on est en sécurité. Et on sait que ce qui nous attend, c'est la vie éternelle et c'est la paix. Alors on a vu que oui, il y a la colère de Dieu qui vient à cause du péché, que oui, il y a un refuge qui existe. Ce refuge, c'est Jésus-Christ. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est simple. Quand on sait qu'il y a quelque chose, qu'il y a une catastrophe qui arrive, on va au refuge. D'ailleurs, Jean-Baptiste va dire, qui vous a appris à fuir? La fuite, c'est quand on va vite quelque part. Et vous savez, si on sait qu'il y a la colère de Dieu qui vient, et qu'on sait qu'il y a un refuge qui est là, eh ben, c'est tout dans notre intérêt de fuir, d'aller vite dans ce refuge, et de ne pas attendre, parce que c'est dangereux. Aller au refuge. On voit que Noé, c'est ce qu'il a fait. Il a laissé sa génération, qui était perverse, qui était corrompue, qui ne pensait qu'au mal, et il est allé dans l'arche. On voit que Lot, c'est ce qu'il a fait. Alors lui, ça a été un petit peu plus difficile, mais c'est ce qu'il a fait quand même. Il a fui les villes de Sodome et Gomorre, et parce qu'il a fui, alors il a été sauvé. Et il n'a pas été jugé et condamné avec ces villes-là, parce qu'il s'était échappé. Donc, comment fuir la colère à venir? Déjà, la première chose, c'est de comprendre qu'on est en danger. Et on voit dans l'histoire de Lot que ses gendres et ses filles, qui étaient mariées, à un moment, elles ont cru que Lot y plaisantait. Quand il disait, attention, il y a le jugement qui vient. Et parce qu'ils ont cru qu'il plaisantait, ils sont restés dans la ville et ils ont été condamnés avec la ville. Mais Lot, lui, pressé par Dieu, il a pu s'échapper. Il s'est échappé. Et parce qu'il s'est échappé, alors il a pu échapper à la condamnation qui venait dans ce monde. Donc premièrement, comprendre que si on n'est pas dans le refuge, on est en danger. Et vous allez me dire, oulala, ça fait peur ce que tu dis. J'ai envie de vous dire que si vous n'êtes pas dans le refuge, c'est normal que vous ayez peur. Et il vaut mieux que vous ayez peur, parce qu'il y a la colère de Dieu qui vient. Et que la colère de Dieu qui vient, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas de la rigolade, c'est une réalité. Mais il y a un refuge parce que les portes de la grâce, elles sont ouvertes. Donc oui, comprendre qu'on est en danger, mais aussi ce qu'il nous faut, c'est rentrer dans ce refuge. Vous comprenez bien que, comme l'a dit Jonathan tout à l'heure dans les chants, Dieu nous laisse libres. Et on voit que Dieu ne force jamais personne. Il avertit, il appelle encore. Il patiente, parce que, comme on l'a lu tout à l'heure, il veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Il patiente pour que les hommes se détournent du péché et rentrent dans le refuge qui est ouvert. Et on voit que c'était tout le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il disait « Repentez-vous ». Et puis c'était aussi le message de Jésus. Jésus, il disait « Repentez-vous ». Pourquoi ? Parce qu'il y a la colère de Dieu qui venait. Si on va dans le psaume 91... Voici ce que dit un homme qui est rentré dans le refuge. Psaume 91, au verset 1er, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. » Donc c'est celui qui est rentré dans le refuge, qui s'est mis sous l'abri du Très-Haut. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, regardez ce qu'il va dire, « Mon refuge est ma forteresse. » Mon Dieu en qui je me confie. On voit que cet homme, il était rentré dans le refuge. Et il va dire, mon Dieu en qui je me confie. Comment rentrer dans le refuge ? Ben c'est vrai qu'il faut réaliser qu'on a quitté cette façon de vivre qui est de tolérer le péché et donc qui amène la colère de Dieu, mais aussi de se confier dans le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés. C'est quoi être sauvé? Tout simplement, c'est se détourner de ses péchés et c'est croire dans le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est croire que c'est Jésus qui a été puni, c'est Jésus qui a été jugé, c'est sur Jésus que la colère est tombée afin que moi, je sois à l'abri et que je puisse me reposer sous les ailes, sous la grâce de Dieu. Et c'est vrai, tout comme... Des fois, moi, je vous avoue, des fois, quand il y a la tempête, j'aime bien sortir en voiture et d'être bien au chaud dans ma voiture et de voir les éléments se déchaîner autour. Parce que ça donne une sensation de sécurité. Vous comprenez? Et je trouve que des fois, la vie chrétienne, c'est un peu ça. Il y a la colère qui vient, il y a la tempête qui déferle. Et d'ailleurs, il suffit de regarder un petit peu le monde, regarder un petit peu les actualités, vous voyez bien que ça ne va pas dans le bon sens, hein, notre monde. Et on sent très bien venir la colère de Dieu. Mais nous, on est à l'abri. Et on peut être dans la paix. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui a payé le prix pour nous. Donc il est important de réaliser que, oui, il faut rentrer dans le refuge. C'est important d'entrer dans le refuge. Et enfin, c'est important de demeurer dans le refuge. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Parce que si je rentre et que je ressors pour me prendre la tempête, vous comprenez bien que c'est pas ça que Dieu veut. Ce qui est important, c'est aussi de demeurer. De demeurer dans le fait de renoncer au péché. Parce que vous voyez, par exemple, la femme de Lot, elle, quand elle a fait un petit demi-tour, eh bien, elle n'a pas été sauvée. Parce qu'elle a eu envie de retourner là où elle. Enfin, ce qu'elle quittait. Mais ce qui est important, c'est de demeurer, de rester à l'abri du Très-Haut. Enfin, pour finir, il nous est dit qu'il n'y a plus aucune. Aucune. Il n'y a plus un brin de colère. Il n'y a plus aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez, le nom de Jésus, il est comparé à un endroit dans lequel on peut rentrer. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc cet après-midi, on a tous le choix. On le sait, voilà. La Bible le dit, c'est clair, la colère de Dieu vient. Il y a des exemples. Mais on sait aussi qu'il y a un refuge. Ce refuge, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous, à la croix, pour nos péchés. Il nous est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, qui veut rentrer. Et il y a cette invitation qui ne restera qu'une invitation, où chacun est libre d'y répondre. Qui veut venir au refuge? Qui veut venir à l'abri? Qui veut accepter de renoncer au péché? Et qui veut croire que c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour lui, afin qu'il ne soit plus condamné? Ben, si c'est le cas, si simplement par la foi, pendant que je parle, il n'y a même pas besoin d'appel, vous saisissez dans votre cœur cette réalité que, oui, vous prenez conscience qu'il y a le péché, qu'à cause du péché, ce n'est pas bien, mais que vous saisissez la main qui vous est tendue, vous entrez dans le refuge qui est encore ouvert, alors vous êtes sauvés. Il n'y a pas besoin d'attendre des années, il n'y a pas besoin d'attendre même une minute, il suffit de choisir. C'est un choix que l'on fait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un jour, la porte de la grâce sera fermée. Et quand la porte de l'arche a été fermée, quand Lot s'est échappé de Sodome et Gomorre instantanément, en fait, il y a un paradoxe. C'est quand le jugement tombe, alors ceux qui sont sauvés s'en vont. Tout comme le déluge est tombé, ça a soulevé l'arche, ben c'est la même chose. Le jour où la colère descendra, l'église sera enlevée. Ceux qui seront dans l'arche seront pris. Parce que c'est comme ça. C'est au moment où le jugement s'applique, tant qu'il arrive, eh bien, il y a d'un côté ceux qui sont sauvés, qui seront transportés dans une allégresse, comme c'est pas possible, comme c'est dur d'exprimer. Et d'un autre côté, il y aura ceux qui auront refusé l'appel de la grâce, qui seront plongés dans un désespoir qu'il n'est pas non plus possible d'exprimer. Mais le choix vous est donné. Repentez-vous. Fuyez la colère à venir. Et vous serez sauvés. Vous serez dans la paix. Et vous ferez partie de cette église où il y a tous ceux qui sont rachetés, tous ceux qui vivent dans cette paix, dans ce bonheur et qui vous attendent. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce qu'elle nous dit la vérité, Seigneur. Merci, c'est vrai, tu ne nous dis pas ce que nous aimerions entendre, mais tu nous dis ce qui est vrai parce que ce que tu veux, c'est que nous soyons sauvés et c'est que nous échappions au jugement, Seigneur. Merci, c'est vrai, parce que ta colère, elle est juste. Et Seigneur, c'est normal, parce que c'est ta justice et tu es un Dieu qui est juste. Mais merci aussi parce que tu nous aimes et que tu nous as donné un moyen, Seigneur, d'être sauvés. Tu nous as donné, Seigneur, ce refuge qu'il y a en Jésus-Christ afin que nous puissions être en paix, afin que nous puissions demeurer à l'abri du Très-Haut. Et Seigneur, déjà pour cela, nous voulons te dire merci de ce que tu patientes, de ce que tu diffères ton jugement parce que tu veux que nous soyons sauvés. Et merci parce que nous croyons, Seigneur, et nous le savons, qu'encore cet après-midi, tu donnes la possibilité à ceux qui ne sont pas dans ce refuge d'y rentrer, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Tu vois, ceux qui sont encore hésitants, ceux qui aimeraient bien, Seigneur, que vraiment tu puisses, par ton esprit, faire ressentir l'urgence de prendre cette décision, Seigneur, parce que le temps vient où il faut prendre cette décision. Alors, Seigneur, simplement, tu as dit que lorsque ta parole elle était prêchée, tu convainquais, tu prouvais, Seigneur, la réalité de ces choses dans les cœurs. Et Seigneur, c'est ce que nous te demandons, que chacun de nous qui l'ayons entendu puisse être convaincu par ta parole, Seigneur, et que cette conviction puisse amener à faire des choix et à ce que des âmes soient sauvées, Seigneur. Alors, nous te disons merci et que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.